Vous écoutez RTL.
RTL dimanche soir, le MacPol
avec Philippe Robuchon.
Le MacPol, le magazine politique de la rédaction avec Olivier Mazerolle. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Quatrième personnage de l'État, il est parfois un contre-pouvoir, un aiguillon qui infléchit la politique du gouvernement. Eh bien, le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, était l'invité du grand jury sur RTL aujourd'hui. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'aura pas joué les désingueurs. Au contraire, sur la réforme de la SNCF, comme sur d'autres sujets, il a apporté un soutien clair et total à Emmanuel Macron. On le réécoutera, on débriefera. En cette période sociale agitée, un visage réapparaît, un style, celui d'Olivier Besancenot. En retrait depuis plusieurs années, le voilà qui revient en première ligne des conflits sociaux. Pourquoi ? Ce sera l'enquête du MacPol. Et puis alors qu'ils sont privés parfois de train, d'avion et que leur impatience grandit, les Français ont-ils envie en ce moment qu'on leur parle d'Europe ? Hier, à un an des élections européennes, a été lancée la Grande Marche pour l'Europe, voulue par Emmanuel Macron. Des personnalités ont fait du porte-à-porte pour relancer l'idée européenne. Comment ont-ils été accueillis ? Reportage à suivre. Le MacPol, c'est parti jusqu'à 19h.
Le MacPol.
La semaine d'Olivier Mazerolle sur RTL.
Olivier, dans 4 jours, à la veille d'un troisième préavis de grève à la SNCF, Emmanuel Macron va donc s'adresser aux Français. Ce sera sur TF1 à 13h avec Jean-Pierre Pernaut. On a appris cet après-midi que ce serait dans le département de l'Orne, dans un petit village qui s'appelle Berduy, 1100 habitants, où Marine Le Pen était arrivée en tête au premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron va parler des réformes, pas seulement de la SNCF. Jusqu'à présent, dans les sondages, globalement, les Français continuent de lui faire confiance, mais ils doutent. Et les mécontents font de plus en plus de bruit.
Oui, bah, vous savez, il faut regarder ce qui s'est passé depuis son élection. Emmanuel Macron a démarré son quinquennat en flèche. Il a redonné de la fierté aux Français en s'imposant sur la scène internationale. Il a mis en œuvre les réformes qu'il avait annoncées. Parole tenue, c'était inhabituel et ça plaisait. Chacune des mesures prises séparément suscitait des controverses, mais les Français laissaient faire parce qu'ils avaient envie de retrouver de l'espoir. Et c'est d'ailleurs certainement encore le cas. Mais dans sa course en avant, Emmanuel Macron a oublié de mobiliser autour de lui. Il a parlé d'efficacité, de pragmatisme, pas de quoi susciter l'enthousiasme. À chaque fois qu'il a rencontré des Français, on a pu à juste titre souligner le courage d'un président pas hypocrite, qui va au contact, mais à chaque fois, il s'est comporté aussi comme un professeur qui donne des leçons, qui ne bouge pas d'un iota et donne parfois l'impression de ne pas tenir compte des objections de ses interlocuteurs. Et maintenant qu'il se heurte au mur syndical qu'il a en partie suscité d'ailleurs à la SNCF, eh bien l'opinion vacille et s'interroge.
Alors précisément, comment peut-il trouver un appui inconditionnel d'une majorité de Français ?
Eh bien d'abord en montrant qu'il est attentif à la situation des gens, qu'il abandonne une attitude qui confine parfois à de l'arrogance, qu'il montre avoir pris ses décisions en étant donc parfaitement conscient des efforts qu'il impose à certains. Et ça, ça ne se démontre pas en accumulant uniquement des justifications arithmétiques liées à l'économie. Et puis il faut aussi qu'il donne un cadre et un sens à l'ensemble de ces réformes, qu'il énonce clairement le futur qu'il propose à la France dans ce monde en pleine évolution, qu'il donne un supplément d'âme à son action. Il pourrait prendre en exemple le général de Gaulle, qui savait célébrer la grandeur avec simplicité de langage. En 1958, quand il met en place un plan de rigueur terriblement draconien, le général président dit aux Français « sans l'effort de remise en ordre, avec les sacrifices qu'il requiert, nous resterons un pays à la traîne. Au contraire, si nous réussissons la grande entreprise nationale de redressement financier et économique, alors quelle étape sur la route qui nous mène vers les sommets ? C'était sobre, efficace et compréhensible pour tous. Il entraînait avec lui une nation. Aujourd'hui, la majorité des Français, en réalité, n'attendent que cela. Et ça serait du gâchis si Emmanuel Macron n'y parvenait pas, alors qu'il a beaucoup d'atouts pour cela.
L'édito d'Olivier Mazerolle. En tout cas, Emmanuel Macron aura reçu un soutien clair et net aujourd'hui. Celui du quatrième personnage de l'État, le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy. Il était à la mi-journée l'invité du grand jury RTL, le Figaro LCI. Sur la réforme de la SNCF, c'est simple, il approuve tout. Il n'approuve évidemment pas, en revanche, l'attitude des syndicats qu'il a dénoncé au passage. C'est le replay du grand jury ce soir. On écoute et on commente après François de Rugy.
La porte est toujours ouverte pour la négociation, mais ce que nous savions avant et ce qui se confirme aujourd'hui, c'est que de toute façon, pour mener une réforme comme celle-là, on ne peut pas compter sur la négociation. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs, le principal syndicat de la SNCF, la CGT, qui a toujours refusé de négocier. Et moi, j'ai en mémoire ce qui s'est passé il n'y a serait-ce que 3 ans Il y avait une petite réforme de la SNCF. Et on nous avait dit, avant que ça vienne au Parlement, ne vous inquiétez pas, tout a été négocié. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand le texte est arrivé au Parlement, il y a eu une grève. Et la grève a duré 10 jours. Et avec cette grève, le texte a été encore très, très lourdement modifié. Oui. Il ne restait plus rien de la réforme
initiale. Donc là, au fond, ça ne sert à rien de négocier.
Ça sert toujours de discuter sur, par exemple, la question du statut des cheminots. Parce que vous savez, quand on rentre dans les détails, là, c'est même plus du domaine de la loi.
Édouard Philippe dit que le statut, justement, ça fait partie des trucs qui ne sont pas négociables.
Non, le fait que les nouveaux agents de la SNCF qui seront recrutés demain, ils ne seront plus recrutés sous le statut actuel. Ça, ce n'est pas négociable.
D'accord.
Mais le fait que, lorsque vous aurez des cheminots, par exemple, qui passeront de la SNCF à un autre opérateur, parce que le cœur du sujet, vous le savez bien, c'est l'ouverture à la concurrence. Pourquoi ? Parce que vous savez très bien que quand vous avez une société, quelle qu'elle soit, en situation de monopole, au bout d'un certain temps, on ne fait plus preuve de beaucoup d'imagination, car on n'est pas stimulé par d'autres concurrents. Parce que les Français veulent, comme partout en Europe, ils veulent plus de trains. Je vais vous parler d'un exemple qui m'a été rapporté par ma maman il y a quelques jours. Elle veut aller avec mon papa en Italie. Eh bien, le billet Paris-Nantes coûte plus cher que le billet Paris-Milan. Pourtant, la distance Paris-Milan est beaucoup plus longue que la distance Paris-Nantes.
Et avec la réforme, ça
changera ? Pourquoi ? Parce qu'en Italie, il y a eu une ouverture à la concurrence et il y a 30 à 40% de baisse des prix et 30 à 40% de le même mouvement de hausse de la fréquentation. Parce que le service public, plus il est cher, moins il y en a. Le président de la SNCF le reconnaît lui-même d'ailleurs. Il dit, pour faire un certain nombre de changements, eh bien, il faut qu'il y ait une stimulation
extérieure. Et donc c'est les régions qui feront
regardez,
ça boulot, à votre place. Hein,
regardez dans le secteur des transports aériens. Il y a 30 ans, vous avez eu une ouverture à la concurrence. Est-ce que Air France a disparu ? Non, Air France est toujours la principale compagnie aérienne en France. Seulement, elle a créé elle-même d'autres compagnies. Hop, Transavia, aujourd'hui June, qui ont des services moins chers. Et puis, il y a d'autres compagnies, notamment low cost, qui sont venues sur le marché. Et les Français ont le choix.
Est-ce qu'il y a une inquiétude au gouvernement et dans la majorité? Parce qu'on voit l'exécutif monter au front. Il y a Édouard Philippe dans Le Parisien aujourd'hui. Il y a Emmanuel Macron qui sera l'invité du 13h de TF1 avec Jean-Pierre Pernaut jeudi. Donc le président qui monte en première ligne sur cette réforme de la SNCF. Est-ce que ça veut dire que le reste de l'équipe n'a pas bien fait son travail et qu'il faut que les choses soient reprises en main au plus haut niveau?
Non, c'est votre interprétation. C'est surtout que le chef de l'État ne s'est jamais défaussé. Il n'a jamais dit « Oh ben ça, c'est une réforme du gouvernement qu'il se débrouille ». Il explique sa politique, il donne les grandes lignes, ça c'est le rôle du chef de l'État. Le Premier ministre et ses ministres également, si le Premier ministre dit « Ah ben non, allez voir ça avec la ministre des Transports ». Et ensuite, les parlementaires sont également là pour faire cette pédagogie. C'est normal. Je vais même vous dire une chose. En réformant comme nous voulons le faire, moi je prends le pari que demain les cheminots seront mieux payés. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, dans les rigidités de la SNCF, il y a y compris une rigidité très forte sur la grille des salaires. Et je pourrais vous donner des exemples concrets.
C'est une promesse que vous leur faites aujourd'hui ?
Mais en tout cas, c'est une perspective qui s'ouvre, j'en suis convaincu.
RTL dimanche soir, le MacPol.
Philippe Robuchon.
Benjamin Sportouche, RTL, Alexis Brézé, Le Figaro, Christophe Jacubizine, TF1, LCI. Mais si on viendrait entendre François de Rugy, meilleur soldat de la Macronie. Je crois que c'est vous, Benjamin, qui avez utilisé cette expression pendant l'émission. C'était quand même frappant.
Ah bien, écoutez, c'est vrai qu'on n'attend pas forcément d'un président de l'Assemblée nationale qui soit en phase avec tout ce que fait l'exécutif, parce que en général, ils essayent toujours de se démarquer pour exister. Ce que ça avait fait Claude Bartolone, souvenez-vous, qui voulait devenir Premier ministre. Alors, peut-être que c'est salutaire, en même temps, on peut se dire qu'il y a une cohérence, et peut-être qu'il n'y a aucune autre ambition que celle d'être et de rester président de l'Assemblée nationale, mais c'est vrai qu'il y a des moments où on se dit quand même, il avale pas mal de couleuvres, et notamment ses ordonnances qui privent d'un débat parlementaire complet sur la réforme de la SNCF, et puis la réforme institutionnelle, où finalement, eh bien, il va avoir 15% de proportionnel dans la prochaine législature si la réforme passe, alors qu'il en voulait 25%.
Il en voulait 25% comme Bayrou.
On a franchement tout fait pour qu'il nous dise s'il était satisfait ou pas. On n'a jamais eu la réponse.
Christophe.
Ah, moi, je dirais le contraire. C'est qu'au fond, il est très malin. Il s'est démarqué puisqu'il est bien meilleur soldat à la Macronie qu'aucun autre ministre qu'on a entendu depuis 15 jours sur la réforme de la SNCF. Et donc, en fait, il a bien compris qu'il y avait un créneau à prendre. C'était le meilleur porte-parole et le meilleur défenseur d'Emmanuel Macron. Et ça, ça fait très plaisir au président, comme vous le savez. Et donc, il a trouvé son rôle, en tout cas, dans cette séquence, c'est-à-dire d'être le meilleur avocat des réformes en cours.
Peut-être pour rester jusqu'en 2022, président de l'Assemblée, puisqu'il avait dit qu'il la remettrait en jeu son mandat.
Il pourra devenir ministre après ce qu'il a fait aujourd'hui.
C'est vrai que moi j'ai trouvé que sur cette affaire de SNCF, il était très efficace parce qu'il est à la fois plus dans la théorie, c'est-à-dire qu'il assume vraiment, oui, la privatisation, c'est mieux, oui, finalement, le privé, c'est mieux que le public.
Pas la privatisation, mais la concurrence.
Ouais. La concurrence. Mais il nous a dit d'ailleurs, entre les deux parties de l'émission, il a dit, mais autrefois, chez les Verts, on était pour ça. Ouais. On était pour la concurrence, contre les monopoles publics, parce que la concurrence, ça fait baisser les prix. Donc il assume théoriquement ce qui souvent relève du non-dit chez les ministres ou chez Édouard Philippe. On n'en parle jamais de la concurrence, il ne faut surtout pas en parler. Lui, il dit, c'est mieux. Et j'ai trouvé qu'il avait un deuxième avantage, c'est dans le côté concret. C'est-à-dire que pour illustrer ça, il dit, eh ben mon père et ma mère,
les exemples,
ça coûte plus cher d'aller de Nantes à Paris que d'aller de Paris à Milan, vous vous rendez compte? Ben, ça parle.
Ouais, exactement.
C'est le meilleur pédagogue de la réforme.
Mais finalement. Donc du coup, il n'a pas tapé sur le statut des cheminots, il a trouvé des exemples concrets pour montrer que finalement la concurrence, ça serait mieux à la fin pour les gens.
Mais... Oui, un avocat du libéralisme. Moi, il m'a fait penser à Pierre Gattaz à cette même place. Non, mais c'est vrai. Mais c'était très comparable.
C'est possible. Mais en même temps, par exemple, sur la dette, il pourrait aller un peu plus loin. C'est vrai que c'est un élément dans la négociation. Il a été d'ailleurs très cash. Il dit c'est même pas de la négociation. C'est de la discussion, concertation. Donc en fait, lui, ça, c'est embêtant pour le gouvernement qui dit il y a quand même encore du grain à moudre. Lui, il nous a dit il n'y a rien à négocier, à part à la marge des toutes petites choses. Et sur la dette, on pouvait attendre de sa part, peut-être, par exemple, qu'ils disent, maintenant, l'État doit reprendre la dette à sa charge. Ça peut être un signe en faveur des cheminots. Oui. Peut-être Emmanuel Macron le fera-t-il jeudi.
Mais c'est vrai qu'en fait, il a dit ce que ni Elisabeth Borne, ni Édouard Philippe n'osent dire, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien à négocier. Ouais. C'est-à-dire c'est-à-dire que là, il n'y a rien à voir. Ouais. Et il l'assume assez bien, et je pense qu'effectivement, ça peut énerver les cheminots, mais en fait, au fond, ils ne croient pas à la survivance de cette grève très longtemps. Ils disent tous que d'ici mi-avril, d'ailleurs, lui le dit, dans une semaine, la loi est votée à l'Assemblée, c'est terminé.
C'est vrai qu'il s'appuie aussi sur un certain nombre de sondages qui montrent que le soutien au mouvement n'augmente pas, il aura même plutôt tendance à régresser. Donc ils se disent, les cheminots vont exaspérer les gens, plus cette affaire va durer. Et donc à la fin, il suffit de tenir et on passe.
62%, on le rappelle, dans le journal du dimanche, 62% des Français soutiennent cette réforme. Sur d'autres sujets, là aussi, soutien total au gouvernement. Notre-Dame-des-Landes, les expulsions.
Alors, oui, et sur la réforme institutionnelle, il est un petit peu moins convaincant.
Moins, effectivement.
Parce que là, il mange son chapeau.
Il a avalé une couleuvre.
Il mérite d'exister un peu plus que ce qu'il n'a fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, il était pour une proportionnelle plus importante dans la réforme institutionnelle. Et finalement, il y a eu un arbitrage à 15%. Ça lui va. Donc peut-être que là, on a envie de lui dire, François Drogi, continue à...
Pour ne pas mettre Emmanuel Macron, le gouvernement, dans l'embarras, il n'a surtout pas voulu dire qu'il en voulait davantage. Alors qu'il aurait dit, écoutez, tout le monde sait que moi je suis plutôt pour 20-25, mais c'est pas moi qui décide, on verra bien. Il s'en serait tiré, à mon avis, plus vite et plus élégant.
On est quand même très loin de Philippe Séguin, alors que moi je n'ai pas connu comme président de l'Assemblée nationale, mais je l'ai lu. Et quand même, on était dans une défense acharnée de l'institution parlementaire et d'un système à l'époque majoritaire. Là, on ne sait pas si François de Rugy, il est quand même pour davantage encore de proportionnel que 25% même, puisque souvenez-vous, les écolistes, c'était pour la proportionnelle intégrale. Donc, vous voyez, c'est vrai qu'on le sent quand même tellement dans cette volonté d'être
bon élève.
Pourquoi ? Parce que quelque part aussi, François Drogi, il faut dire les choses, c'est une place inespérée pour lui. Jamais, il y a encore un an, il n'envisageait d'être à la tête de l'Assemblée nationale.
Quatrième personnage de l'État.
Personne ne pensait à François Drogi. D'ailleurs, personne n'y pensait. On pensait même à Barbara Pompili, qui a toujours été son acolyte parce que c'était une femme et qu'il fallait féminiser certains postes. Non, la Macronie est très masculine. Elle est incarnée aussi par François de Rugy. Et quelque part, on a l'impression parfois que c'est un renvoi d'ascenseur.
Merci Benjamin Sportouche, RTL, Alexis Brézé, Le Figaro, Christophe Jacubizine, TF1, LCI.
Le Macpol, Philippe Robuchon.
Olivier Mazerolle, François de Rugy dit à propos de la réforme SNCF, on ne peut pas compter sur la négociation. En fait, il met dans le même sac tous les syndicats, pas vous.
Non, et pas Édouard Philippe d'ailleurs, qui a dit ce matin dans Le Parisien, il a dénoncé l'attitude de certains syndicats. Bon, alors ça pointe la CGT et Sud, évidemment. Mais effectivement, il y a la CFDT et l'UNSA qui ont accepté la réforme de la SNCF, en ce sens qu'ils acceptent la concurrence. Pas de gaieté de cœur, mais il l'accepte. Il réclame en échange une définition rapide et précise de ce que sera le statut des salariés du secteur ferroviaire une fois que la concurrence sera instaurée. Et ils ne l'ont pas. Bon, c'est peut-être un champ sur lequel il y a une négociation possible. Et quant au statut de la SNCF, des cheminots, Laurent Berger, il a dit « impossible de l'abandonner tant que nous ne saurons pas quel sera le statut futur des salariés ». Donc on voit bien qu'il y a du grain à moudre, comme disait feu André Bergeron de Force Ouvrière.
Eh bien, on verra si Emmanuel Macron moule le grain ou pas dans les jours qui viennent, notamment jeudi sur TF1.
Bon, c'est pas lui qui va le moudre, mais il y a peut-être un ministre qui peut s'y mettre vraiment pour qu'il ait des choses agréables à nous dire jeudi.
Il peut faire passer le message. 18h48, on va marquer une petite pause dans ce MacPol. Dans un instant, on va parler du grand retour d'Olivier Besancenot, tiens, sur la scène politique. Auparavant, le résultat du rugby s'est terminé depuis quelques minutes. Jean-Michel Rascol me signale que le Racing l'a emporté sur Toulon 17-13. C'est fini également en football entre Lyon et Metz. Dimitri Ramelot.
Effectivement, victoire large 5-0 pour Lyon, doublé de Marcelo. Depay a marqué, Traoré également et Mariano termine cette démonstration 5-0 pour Lyon ici à Metz.
RTL dimanche soir, le MacPol
avec Philippe Robuchon.
Il avait totalement disparu des radars, on le croyait carrément passé à autre chose. Or, depuis plusieurs semaines, on assiste au grand retour dans les médias d'Olivier Besancenot. Deux fois candidat à la présidentielle, 2002-2007. Il avait depuis passé la main à Philippe Poutou à la tête du NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Mais à 44 ans, le facteur le plus célèbre de France semble donc reprendre du poil de la bête, du service. En pleine agitation sociale, il réinvestit le champ politique. Bonsoir Marie-Bénédicte Allaire.
Bonsoir.
Vous l'avez suivi cette semaine, Olivier Besancenot. Qu'est-ce qui explique ce grand retour ?
Eh bien écoutez, j'ai profité de sa présence jeudi aux côtés des autres leaders de gauche à Wincourt dans la Somme pour lui demander pourquoi il revenait alors qu'il avait pris du champ.
Mais j'ai jamais pris du champ, moi je suis un gars de la ville moi. Revenir, ça veut dire que je suis parti. Moi, j'ai jamais cessé de militer. Heureusement, toute la politique en France ne se passe pas devant les micros ni devant les caméras. Là, il se trouve que j'ai porté une voix à un moment donné. Peut-être que cette voix, elle n'était pas portée jusqu'à présent.
Alors, on l'a compris, s'il commence par une boutade, c'est qu'Olivier Besancenot refuse toute personnalisation. Parce que le NPA ne fonctionne pas comme les autres partis. Leur but, c'est le renversement de l'ordre établi, la révolution. Alors, ça ne les empêche pas d'avoir des candidats aux élections, parce que c'est une tribune, mais l'individu s'efface derrière la cause.
Bon, d'accord, il n'a jamais cessé de militer, peut-être, mais il n'était plus sur le devant de la scène.
Bah, c'est vrai, mais Philippe Poutou, le candidat du nouveau parti anticapitaliste aux deux dernières présidentielles, est actuellement très mobilisé dans la défense de son usine Ford de Blanquefort, menacée de fermeture. Et puis, même s'il a fait une prestation remarquée dans le débat du premier tour de la présidentielle, Poutou a plafonné à 1% des suffrages. Ce retour au premier plan de Besancenot, on maintient le terme, hein, il a donc été acté début mars par la direction du NPA. Et c'est à ce moment-là qu'arrive l'invitation de Laurent Ruquier à participer à On n'est pas couché. Besancenot est un habitué de l'émission, il y va à peu près une fois par an. Mais ce soir-là, il va avoir cette petite phrase.
Moi, à ceux qui nous regardent, je voudrais dire ça. Ne tombez pas dans le poison de la division. C'est on est tous les cheminots de quelqu'un d'autre à ce jeu-là.
On est tous les cheminots de quelqu'un d'autre, ça veut dire, attention, si vous trouvez que les cheminots sont des privilégiés, parce que les prochaines victimes du gouvernement, c'est vous. C'est simple, efficace, et quand c'est Besancenot qui le dit, ça marque les esprits. C'est comme ça, hein, y a des personnalités qui prennent mieux la lumière que d'autres. Alors Benoît Hamon explique qu'il a appelé Olivier Besancenot après l'avoir vu à la télé ce soir-là. Bon, en tout cas, c'est à partir de là que le contact est noué avec les autres organisations de gauche, avec l'idée d'un appel commun, puis d'action commune avec le PC, les écolos et aussi la France insoumise, d'abord réticente mais qui s'y joint aussi.
Alors justement Marie-Bénédicte, est-ce que c'est une façon, ce retour de Besancenot, de doubler Jean-Luc Mélenchon ?
Eh bien là encore, voici ce qu'en dit Olivier Besancenot.
C'est le dernier de mes soucis, je vous mens pas, c'est franchement le dernier de mes soucis en ce moment et qu'on a besoin de tout le monde. Voilà, et que si plutôt que de tourner autour du pot, moi j'ai déjà expliqué plusieurs fois à la France insoumise que je pensais qu'il fallait pas qu'il joue solo. Aujourd'hui, on est tous dans le même cadre et c'est tant mieux. Moi, les calculs à trois bandes, c'est pas mon truc.
Alors, il explique aussi que les ordonnances sur la loi travail ont été une occasion manquée. Sous-entendu, la faute en revient à la France insoumise qui a voulu capter la protestation à son profit. Mélenchon n'est plus crédible, dit-on même au NPA. Évidemment, derrière tout ça, il y a un jeu tactique. Le nouveau parti anticapitaliste sait que les communistes comme Benoît Hamon ont une revanche à prendre sur Mélenchon. Hamon pense aussi aux élections européennes. Pour Olivier Besancenot et le NPA, ce qui compte, c'est d'obtenir le le retrait de la réforme ferroviaire. Il pense qu'on est à un moment politique critique et qu'il y a peut-être moyen d'emporter une victoire décisive. On verra si l'avenir leur donne raison.
Merci Marie-Bénédicte Allaire. Court commentaire, Olivier.
Eh ben, au moment où on parle beaucoup du 50e anniversaire de mai 68, c'est assez curieux de voir le trotskiste s'allier à la CGT alors qu'à l'époque, ils étaient en hostilité et en confrontation totale. Mais il est vrai que pour renverser l'ordre établi, tout est bon.
On va revenir à présent, Olivier, sur une initiative que souhaitait Emmanuel Macron, cette grande marche pour l'Europe censée mobiliser les Français à un an des européennes. Un peu comme l'avaient fait les marcheurs durant la présidentielle, le chef de l'État a voulu que les adhérents de La République En Marche retournent à la rencontre des Français, fassent du porte-à-porte pour promouvoir l'idéal européen qui, il faut bien le dire, est un peu mis à mal en ce moment par la montée du populisme. Sauf que, eh bien, l'actualité lui a compliqué la tâche à Emmanuel Macron, reportée une première fois après l'attaque terroriste dans l'Aude. Cette grande marche n'a été lancée qu'hier, qui plus est en période de grève, autant dire que ce n'était pas gagné d'avance. Parmi les personnalités qui ont mis la chemise dans des cages d'escalier, Christophe Castaner, le délégué général de La République En Marche, il était à Tours hier et dans sa banlieue. Christian Panvert l'a suivi pour RTL.
Nous sommes dans la zone pavillonnaire de Fondette, 10 000 habitants. Plus d'une cinquantaine de personnes posent en agitant le drapeau européen. La photo est prise, l'action peut commencer. Christophe Castaner prend la tête du cortège, accompagné des trois députés de La République En Marche du département.
Moi, j'avais fait une statistique dans les quartiers, mais chez moi, selon la typologie de maison, etc., je sentais que j'allais avoir un accueil positif ou pas. C'était assez juste. Hein.
Premier arrêt chez un homme de 42 ans, fonctionnaire territorial.
On peut rentrer ?
Oui, on peut rentrer, merci.
Vous ne me connaissez pas ?
Non, on ne se connaît pas personnellement.
Non, parce que là, les journalistes se disent oui, il a été choisi.
Le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement sort un questionnaire.
Donc, si je vous dis Europe, ça vous fait penser à quoi ?
Mise en commun, solidarité et progrès social.
Qu'est-ce qui ne marche pas en Europe aujourd'hui ?
C'est trop déconnecté des attentes de chaque citoyen européen. C'est pour ça que les gens s'en détournent.
Le groupe sonne ensuite chez Anne-Marie, 60 ans.
La maison ne va pas être assez grande.
Non, mais on ne va pas rester longtemps.
La retraitée n'a pas une très bonne image de l'Europe.
Moi, je vais être honnête avec vous. Quand on a voté pour Maastricht, moi, j'étais contre. Donc, avec recul, l'Europe... C'est bien, mais c'est le pouvoir d'achat qui a baissé quand même, avec l'euro.
Après le porte-à-porte, déambulation dans les rues de Tours. Christophe Castaner reconnaît que le contexte social n'est pas bon, mais peu importe.
Dès qu'on parle d'Europe, on dit oh, une autre fois. Et donc oui, moi je prends le risque de dire on est à contre-temps. Ce qui compte, c'est de parler d'Europe, d'exiger de l'Europe.
Le rendez-vous annoncé depuis 3 jours dans la presse régionale a été fixé à 200 mètres de la faculté des tanneurs, occupée toute la semaine. Et la journée a pris fin avec une réunion improvisée au buffet de la gare. Et pourtant, sur le parcours, pas un étudiant, pas un cheminot gréviste.
Bah, ça veut dire qu'effectivement, la réalité peut être un tout petit peu différente de celle qu'on peut entendre constamment sur certaines chaînes infos. La réalité, c'est qu'ici à Tours, aujourd'hui, les gens ont des exigences de transformation de la société française. Ils m'ont parlé de projets, ils m'ont parlé de réalité, ils m'ont parlé de concret. Ils m'ont pas parlé de cette France bloquée par les conservatismes du « c'était mieux avant ». Les Français veulent que ça bouge.
Finalement, durant toute la journée, seul Maxime, 70 ans, l'a interpellé.
Vous voyez mon petit porte-monnaie, monsieur ? Est-ce que... Plus ça va, moins il y en a dedans.
Ben, vous avez perdu, je sais. Non, mais vous avez perdu 1,7%.
Alors ne vous étonnez pas du malaise français et des gens qui rouspètent.
Mais vous savez, vous êtes la première personne depuis ce matin.
Mais il y a toujours un premier, monsieur.
Mais je ne vous reproche pas ça. mais juste vous dire que vous ne pouvez pas parler au nom des Français. Vous pouvez par contre râler.
Mais attendez, mais c'est qu'on est un paquet de retraités, monsieur.
Mais tous les retraités ne râlent pas.
Entre lui et le délégué de La République En Marche, le débat sur l'Europe, ce sera pour une prochaine fois.
Voilà, reportage Christian Panvert. On pensait qu'il serait malmené, Christophe Castaner, non, finalement, pas tant que ça.
C'est bien d'aller rencontrer les Français, mais c'est vrai que les Européennes, de l'an prochain, c'est un rendez-vous extrêmement important pour Emmanuel Macron. C'est son première épreuve électorale après son élection, et ça sera sur liste nationale. Donc, si sa liste est devancée par une autre, vous voyez tout de suite les commentaires que nous aurons l'occasion de faire à ce moment-là.
Exactement. Olivier, on va retenir dans l'agenda de la semaine un seul événement, jeudi, 13h, Emmanuel Macron, TF1.
Qui commande beaucoup de choses.
Voilà, la suite de la grève à la SNCF et beaucoup d'autres choses plus larges. Merci Olivier Mazerolle, c'est la fin du MacPol. Dans un instant, les titres de l'actualité avec Alexandre de Saint-Aignan. Puis les dessous de l'écran, on va vous parler d'un documentaire exceptionnel qui va être diffusé mercredi prochain sur France 5. Ça s'appelle « Pauvres de nous ». Comment en 2018, des millions d'hommes, de femmes, d'enfants vivent en France avec moins de 1000 euros par mois. Il n'y a aucun pathos dans ce documentaire. C'est un grand moment de dignité. Et puis dans le débat, on vous expliquera pourquoi les séries ont pris le pouvoir à la télé et sur les plateformes vidéo. À tout de suite.